Bonjour, bonjour à tous. Ici l'émission mensuelle du Grémos, Jean-Michel Stenner. Merci aux auditeurs, merci à l'équipe technique avec Lionel aux manettes et merci à Jean Lorsin, donc professeur émérite et honoraire à l'Université de Lyon 2, qui a fait un long voyage puisqu'il vient du Haut-Allier pour venir nous entretenir de la première demi-journée des rencontres d'histoire ouvrière que nous avons organisées les 20 et 21 janvier dernier, donc en 2017. Je rappelle que le thème était « Travail et monde ouvrier au temps de la Grande Guerre, le bassin stéphanois de 1910 à 1925 ». Alors pourquoi Jean Lorsin, qui a été donc le président d'honneur de ces rencontres? Eh bien, parce que Jean Lorsin est un spécialiste éminent de la période. Il a fait donc une thèse « Économie et comportements sociaux et politiques, la région de Saint-Étienne de la Grande Dépression à la Seconde Guerre mondiale ». Donc la Première Guerre mondiale était au cœur de son sujet. Et cette thèse d'ailleurs est disponible, même si elle est volumineuse, hein, plus de 2000 pages, Jean. Cette thèse est disponible pour ceux qui sont curieux de la consulter, soit aux ADL, aux archives départementales, soit à la bibliothèque universitaire et même à la bibliothèque municipale de Saint-Étienne. Jean a aussi fait beaucoup d'articles, donc notamment des articles d'histoire sociale. Je mentionnerai par exemple un essai de stratigraphie sociale, les chefs d'atelier et compagnons dans la grève des passementiers de Saint-Étienne. Il a aussi travaillé sur la question du socialisme municipal à travers l'exemple de la municipalité de Jules Ledin en 1904-1906. Et cette question du socialisme municipal, évidemment, au croisement de l'histoire économique et de l'histoire sociale. Il a aussi fait un livre en compagnie d'Anne-Marie Vurpas et de Jean-Baptiste Martin, que j'aime beaucoup, « Le rêve républicain d'un poète ouvrier, chansons et poésie en dialecte stéphanois » de Jacques Vacher. C'était en 1999, si je ne me trompe. Alors, nous allons donc revenir aujourd'hui sur la première demi-journée de ces rencontres qui s'intitulait « Ouvrières, ouvriers et entreprises dans la Grande Guerre ». Et donc, nous allons surtout évoquer la question des entreprises, du fonctionnement des entreprises, tel qu'il fonctionnait avant la guerre et comment la guerre a pu transformer cette économie et le mode de gérance, le mode de gouvernance des entreprises stéphanoises. Donc je vous propose dans un premier temps d'écouter deux extraits. D'abord celui de Michel Zancarini-Fournel. L'intervention de Michel Zancarini-Fournel portait sur ouvriers, ouvrières et politique patronale, l'entreprise Mimar pendant la Première Guerre mondiale. C'était évidemment le cas d'une entreprise particulièrement emblématique de l'économie stéphanoise.
Étienne Mimar, fils unique d'un armurier aisé de Sens dans Lyon, a fait des études de dessinateur et il a entrepris, comme on le faisait à l'époque, un parcours de perfectionnement dans la gravure et dans la fabrication des armes à Liège, qui était un centre consacré à cela, puis à Saint-Étienne, où il s'installe à vie et à mort. Il y a une anecdote qui raconte qu'il serait debout dans la tombe en surveillant l'usine, mais ça, je pense que ce n'est pas vrai. Hein. Mimar est embauché en 1884, à 22 ans, dans une petite manufacture d'armes qui s'appelle Martigny et Collin, qu'il rachète l'année d'après, mais il rachète surtout les créances en association avec Pierre Blachon. Voilà, merci. Voilà, alors c'est une photographie, une première installation autour de Blachon et de Mimar. Ils sont tous les deux, le chien est plus près de Mimar, et qui montre dès le début, il y avait à la fois des ouvriers et des jeunes filles qui étaient chargées du quadrillage, c'est-à-dire des corps de la crosse des armes. Voilà, alors cette entreprise, donc sous la forme d'une société d'abord en nom collectif, est édite tout de suite, ça va être sa marque de fabrique, on peut dire, un tarif de produits. Et ces produits, c'est non seulement ceux qui fabriquent, mais ceux qu'ils achètent et qui revendent. Donc là, on a le concept de ce qui deviendra Manu France bien plus tard, enfin de la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne, qui est créée tout de suite. et il publie Le Chasseur français à direction des chasseurs, qui n'est pas tout de suite un journal avec les annonces matrimoniales, mais qu'il deviendra. Alors, en 1888, à 26 ans, Étienne Mimard consolide sa situation financière par son mariage, c'était assez classique, hein, avec Ernestine Baya, fils unique de rentier de Bois-Colombes, qui lui apporte en dot plusieurs immeubles à Sens, un capital et une série d'actions. Ce capital d'actions va grossir au cours de sa présence à la manufacture. La manufacture s'agrandit donc et s'installe donc Cour Foriel, qui est à l'époque l'avenue huppée de la ville, et c'est le premier album de photos qui est fait en 1898. Alors évidemment, on voit se détachant devant le perron Mimard et Blachant. Les ouvriers et les employés sont massés avec les gens des bureaux sur l'escalier, les dames en chapeau, et puis derrière la masse des employés. Alors, la manufacture est transformée. Alors, en 1902, elle prend le nom, et seulement 1902, de Manufacture d'Art Messique de Saint-Étienne. Mimard va aux États-Unis pour voir ce qui se passe. Il visite une série d'usines et, en revenant, il modifie le tarif album, ce catalogue que vous connaissez sans doute, de plusieurs centaines de pages, qui est diffusé jusqu'à 800 000 exemplaires en 1913. Et qui devient pour toute une génération, plusieurs générations même, un véritable lieu de mémoire, en particulier dans l'Empire colonial français. Et c'est pour ça que quand vous le regardez de près, on voit quelques vignettes, on se demande à qui peut porter les produits qui sont diffusés ici. Ben, c'était les colons dans l'Empire français. Alors il y a des gamins qui ont appris à lire dans le catalogue de la manufacture, etc. Alors, Mimard s'inspire aussi de l'organisation du travail des entreprises américaines pour réorganiser la direction de l'entreprise et des ateliers avec des principes de centralisation, hiérarchie et réforme administrative qui passent par un système de transmission écrite qui traduisent une gestion de la main-d'œuvre qui manie paternalisme et surveillance tatillonne. Il y avait un imprimé pour tout, il y avait des avis sur tout, y compris la taille du papier toilette. Cette organisation vise l'intégration des salariés aux objectifs d'une maison considérée comme une entreprise modèle. On l'a fait d'ailleurs visiter, c'est aussi une première. On l'a fait visiter, il y a une brochure, un parcours de visite. On invite ceux qui viennent à Saint-Étienne et qui viennent acheter à la manufacture, dans le magasin de la manufacture, de visiter l'entreprise. Et la manufacture est transformée en 1911 en société anonyme au capital de 10 millions de francs. Et Pierre Blachant s'éloigne progressivement, il avait d'ailleurs été éloigné progressivement, de la direction. Le conseil d'administration est formé uniquement des chefs de service, employés de la société, depuis au moins 5 ans, et dévoué complètement au fondateur au singulier, c'est-à-dire à Étienne Mimard.
Bien, vous venez donc d'entendre un extrait de l'intervention de Michel Zancarini intitulé « Ouvriers et ouvrières et politique patronale, l'entreprise Mimard pendant la Première Guerre mondiale », de première intervention des 4e rencontres d'histoire ouvrière de janvier 2017. Vous avez noté que Michel Zancarini évoque un certain nombre de photographies qu'il a décrites à l'assistance, ce qui m'invite à vous signaler que prochainement nous éditerons les actes et vous pourrez retrouver les photographies en question dans l'ouvrage. Alors, nous allons entendre un deuxième extrait qui est de Antoine Vernet, qui a succédé à Michel Zancarini, qui lui s'est intéressé à un patron de la métallurgie, Joseph Leflèvre, donc l'intitulé de son intervention « Patron charitable et patron de combat, l'action de Joseph Leflèvre aux usines de la Chalet-Acière, 1898-1925 ». Alors, j'ai choisi cet extrait parce que, comme celui de Michel Zancarini, il nous présente un petit peu l'état d'esprit et la structure de l'entreprise.
De 1995 à 1908, c'est les dernières années de la gérance de Vincent Bietrix, donc il y a un ingénieur qui a pris de l'âge, effectivement, qui cherche un peu à renouveler sa direction. En 1908 jusqu'en 1920, c'est le moment où Joseph Leflèvre va être le seul gérant de la Chalet-Acière, et 1920-1926, c'est le moment où ça va se gâter. Alors, qui est Leflèvre par rapport à Bietrix ? Eh bien, c'est simplement son beau-fils, puisque Le Fleuve, qui est un jeune et brillant ingénieur qui est passé par Polytechnique, puis par l'école d'application du génie maritime. Donc c'est quelqu'un qui a fait quelques expéditions avec la marine au Tonkin, qui a intégré, je ne sais plus sous quel ministre, mais qui a été au cabinet du ministère de la Marine. Il est originaire de Bourgogne, d'une petite ville qui s'appelle Puligny-Montrachet. Et donc, vers 1897-98, on a un jeune homme de 27 ans qui est un très beau parti à prendre. Et bon, les conventions bourgeoises font qu'à l'époque, on essaye de caser la jeune fille à marier, on essaie de faire rencontrer vraiment un jeune homme prometteur. Et Beatrix voit quelqu'un qui lui semble taillé pour reprendre l'activité à la Chalet-Assière pour pouvoir lui succéder. Et donc dès 1997, quand les fiançailles se font, Le Fleuve tente d'obtenir une mise en disponibilité de la marine qui lui est refusée, et par dévouement vis-à-vis de son beau-père, il va démissionner de l'armée pour rejoindre, se faire embaucher à la Chalet-Assière. À partir de 1998, donc l'année du mariage avec la fille Beatrix. Le Fleuve est associé à la gérance de l'entreprise en 1999 officiellement. En fait, voilà, ça fait un an et demi qu'il est déjà dans l'entreprise et il assure une forme de direction technique des usines. Il n'est pas le seul gérant, il y a aussi quelqu'un qui est de la belle famille de Beatrix, la famille Nicolet, qui a été associé un temps à la gérance, mais en fait, il voit arriver Le Fleuve, il comprend qu'il n'a pas ce Nicolet comprend qu'il n'a pas d'avenir dans l'entreprise, et dès que sa famille lui demande de revenir sur Grenoble, il va quitter son poste, a priori sans regret. Donc, dès que Le Fleuve arrive à la direction, Beatrix se retire de plus en plus, il vient simplement la figure tutélaire, il fait marcher son réseau, son carnet d'adresses, pour remplir les carnets de commandes, mais vraiment de manière pratique, c'est Le Fleuve qui assure de plus en plus la gestion technique quotidienne de la Chalet-Assière.
Donc deuxième intervention, deuxième extrait d'intervention, celle d'Antoine Vernet, à propos de l'action de Joseph Le Fleuve aux usines de la Chalet-Assière. Deux exemples, donc Étienne Mimard et Le Fleuve, qui nous montrent un petit peu ce qu'est l'industrie stéphanoise, à la fois en creux et en relief, puisque là on a deux fleurons de l'industrie stéphanoise, les usines donc de Mimard qui sont situées dans le quartier sud et les usines de Le Fleuve qui sont situées dans le quartier nord. Le Fleuve qui est l'héritier d'un fondateur stéphanois, mécanicien autodidacte comme l'a écrit Antoine Vernet, Jean-François Révolier, et qui reprend cette entreprise, qui la transforme. Donc on est, Jean Lorsin, avec le cas de très grandes industries qui s'opposent un petit peu à ce qu'a été l'industrie stéphanoise à ses origines, avec les petits ateliers. Alors on va te laisser la parole après une petite interruption musicale, et tu nous donneras un petit peu ton avis sur cette situation. Jean Lorsin, tu peux nous présenter ton opinion, les résultats de tes recherches, de tes travaux sur ce qu'est donc la réalité de l'industrie stéphanoise au moment où va éclater la guerre de 1914, éventuellement en faisant référence à ce que l'on vient d'entendre des propos de Michel Zancarini et d'Antoine Vernet.
À toi. Oui. Saint-Étienne ressort d'une période de crise qui a fait croire à la mort du bassin houillé à la fin du XIXe siècle. Crise de 1873, relayée en 1884, mais qui se manifeste localement par exemple, la concurrence des charbons du Nord, qui condamne apparemment en partie l'industrie houillère stéphanoise, ou du moins la relègue au second rang, concurrence des aciers à base phosphoreux de la Lorraine, qui condamne une partie de l'industrie lourde stéphanoise. Les hauts fourneaux disparaissent très précocement, les hauts fourneaux datant du Second Empire. La grande industrie fondée sur la production massive de rails, également héritage des politiques ferroviaires du Second Empire, est en déclin puisque le réseau est constitué. On n'a plus besoin de ces productions de masse. Et le ruban, qui est une autre élément important de l'industrie stéphanoise, est en butte à la concurrence de l'usine balloise. Si le ruban veut se lancer dans la production de masse du tissu uni, noir, il y a en face de lui une redoutable concurrence industrielle en Helvétie. Donc, un pessimisme se dégage à la Zola, je dirais. C'est le début de son roman Travail, montre d'abord une région en ruine, en quelque sorte, avant d'exalter une reconversion. Reconversion que Zola raconte dans Travail, d'ailleurs, un de ses quatre évangiles postérieurs à sa mort, d'ailleurs, dans la publication. Par exemple, à la place du charbon, le charbon est en déclin, clame-t-on, eh bien, la houille blanche vient remplacer la houille noire. Et cela se concrétisera effectivement par la création de Loire-et-Centre, la jonction entre les chutes des Alpes du Nord et la région stéphanoise grâce au transport à longue distance qui suppose déjà une innovation technique dont l'Allemagne avait donné l'exemple mais que très bien a su reprendre des industriels français. Nous avons également des tentatives de déreconversion réelles dans le domaine de la métallurgie, c'est-à-dire l'orientation vers les aciers spéciaux, vers la spécialisation, dont Holzer est l'exemple type, n'est-ce pas ? Alors que Verdier était en déclin du côté de Firmini parce qu'il s'était trop ancré sur le rail et la production de masse. De l'autre côté de la rue, toujours entre Firmini et Fraisse-Unieux, Holzer donne l'exemple de l'acier spéciaux, mais aussi de production de qualité de détail. Donc une réorientation qui va jusqu'à l'apparition de l'industrie automobile à Saint-Étienne. On oublie que Saint-Étienne a eu une industrie automobile et pas seulement le cycle. Voilà un exemple. Mimard, dont on vient de parler, donne l'exemple d'un début d'application du taylorisme qui ne peut guère prendre dans la mine du fait des réticences du patronat liées à l'état même du sous-sol. La mine stéphanoise se prêtait mal à une exploitation rationnelle face aux couches horizontales du Nord, mais il y a aussi une certaine paresse mentale qui fait que François Simian, en 1908, dans son ouvrage sur les salaires des mineurs, a critiqué férocement ce qu'on appellera bientôt le malthusianisme économique des houillères de la Loire. Le mot sera prononcé en 1921 par le président du comité des houillères ou à un banquet où l'avait invité la chambre de commerce de Saint-Étienne pour bien entendu réfuter cette accusation. Il n'empêche que le mot est déjà là et c'est comme par hasard à propos de la mine stéphanoise. Il y a donc un remplacement en quelque sorte, et on retrouve ça même dans la rubannerie où des efforts vers la spécialisation, vers un début de rationalisation apparaissent, y compris l'idée d'usine cultivée même par les syndicalistes. Après la grande grève des passementiers de Saint-Étienne en 1899-1900, marquée par l'échauffourée de la grande place centrale de Saint-Étienne, l'hôtel de ville, les syndicalistes eux-mêmes émettent le vœu que l'on n'aille vers la rationalité, vers l'usine, avec évidemment une adaptation de la main-d'œuvre à ce nouveau type de production. Et là encore, l'électricité joue son rôle de relais qui permet de faire un peu face à l'usine baloise en essayant, par exemple, de rester dans la qualité face à la production de masse dans le cas de la rubannerie. Donc tous les espoirs ne sont pas perdus. Il y a dans Saint-Étienne, à la veille de la guerre 14, des ressources qui, pendant la guerre, joueront un certain rôle dans le choix de Saint-Étienne comme repli des industries de guerre, indépendamment du fait que, de toute façon, le Nord et l'Est sont condamnés par l'occupation allemande et les combats. Mais il faut retenir cette tradition qui ne sera pas étrangère aux efforts de taylorisation que Albert Thomas préconisera avec son adjoint, précisément Simian, que l'on retrouve à la tête des manufactures, que l'on retrouve aux côtés d'Albert Thomas pour rationaliser la production sans pénaliser les ouvriers. Il y a un essai d'équilibre, n'est-ce pas, qui traduit un nouveau courant. Mais encore une fois, ces idées nouvelles sont l'héritage de pensées antérieures. Je pense en particulier aux tentatives de rénovation du socialisme municipal sous l'influence qui était menacée, lui aussi, par exemple, par la concurrence de la houille blanche des Alpes, puisque le maire de Saint-Étienne avait envisagé une production locale de la houille blanche à partir du lignon. Et ce déclin, enfin disons ces menaces qui pesaient sur le socialisme municipal vers 1906 sont conjurées par des tentatives de rénovation en profondeur du Parti socialiste et d'adaptation du socialisme municipal aux réalités de l'industrie moderne. Encore une idée d'Albert Thomas, qui pensait que ce ne devait pas être une bureaucratie qui gouverne les sociétés nationalisées, mais dans l'esprit de la grande industrie moderne, une adaptation face à la concurrence de l'industrie privée.
D'accord. Donc là, si j'ai bien compris, pour les auditeurs, on peut peut-être le repréciser, cette notion de grande dépression, c'est une crise de longue durée, une crise cyclique quand même qui commence dans les années 1873 et qui va durer jusqu'à pratiquement 25 ans.
Oui.
Donc, et d'autre part, les adaptations dont tu parles, du socialisme, tout ça, ça nous ramène un petit peu à une certaine actualité que l'on rencontre aujourd'hui. Oui. Alors, que deviennent dans ces conditions, peut-être en dire quelques mots, les activités traditionnelles réalisées dans les petits ateliers, comme l'armurerie par exemple, dans quelles conditions le cycle naît-il dans cette période, puisque c'est finalement les débuts, le démarrage du cycle. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette espèce de côté un petit peu bricoleur génial des petits patrons stéphanois, ou est-ce que ça coexiste, ou est-ce que c'est vraiment irrémédiablement condamné par ces entreprises qui sont en train de se développer?
Avant 1914, je pense qu'une coexistence a lieu, par exemple dans le domaine de l'armurerie. C'est-à-dire qu'il subsiste en petit atelier une armurerie de qualité. C'était la seule condition de survie du petit atelier face à la concurrence de Mimard. Mimard qui, tout de même, cultive une production de masse, taylorisée, mais relativement standardisée. Et il y a toujours une demande de luxe dans le domaine du fusil, en particulier, qui fait subsister, à côté de cette grande industrie, en quelque sorte, des ateliers. On pourrait retrouver dans la rubannerie des exemples similaires, c'est-à-dire une fuite vers la qualité, en quelque sorte, face à la production d'usine, que par ailleurs, encore une fois, des syndicalistes conscients sont les premiers à réclamer pour faire face à la concurrence baloise, par exemple. Donc, cette juxtaposition bénéfique, en quelque sorte, existe encore. Les années 20, il y aura là une crise grave qui va affecter l'ensemble.
Est-ce qu'il y a des liens hiérarchiques travail entre les grandes entreprises et les petits ateliers? Est-ce qu'il y a
une
division du travail?
Il y a une division du travail. Oui. Je pense que Mimard en particulier, je me rappelle toujours que un de mes prédécesseurs à Saint-Étienne, Merlet, l'évoquait. Mimard se rappelait avoir été artisan en quelque sorte et respectait l'artisanat. Donc il y avait une sorte de collaboration qui était possible, d'autant plus que Manu France ne vend pas que sa production, mais fait appel également, dans une certaine mesure, à l'industrie locale. Je crois qu'il y a toujours eu ce souci de ménager une marge. C'est d'ailleurs dans l'intérêt même de l'industriel, parce que ça donne une certaine souplesse face aux crises.
Bien sûr.
Dans le cas de la rubannerie, par exemple, quand il y a chômage, on sait bien qui va chômer le premier.
C'est le sous-traitant qui...
Et le sous-traitant. Donc, il y a un peu d'hypocrisie dans cette collaboration. Mais elle permet également la survie d'une petite industrie parallèle pendant un certain temps.
Et alors, tu as évoqué l'automobile. Finalement, Saint-Étienne aurait peut-être pu être un grand centre d'industrie automobile. Tu dis qu'il existe des choses, mais finalement, il n'y a pas eu de très grandes entreprises, type Renault, Peugeot, développées à Saint-Étienne. Alors, est-ce que c'est lié à des caractéristiques de l'économie, de l'emploi, de la main-d'œuvre stéphanoise, des choix du patronat, d'éviter peut-être l'implantation d'entreprises nouvelles?
Oui, j'ai été violemment attaqué personnellement pour ma sévérité à l'égard du patronat dans certains domaines. Je fais des différences, puisque par exemple, Mimard ou d'autres exemples sont à un autre esprit, mais qui ont réussi en somme, et je pense à Casino.
Bien sûr. Donc,
qui est quand même une remarquable réussite stéphanoise de longue durée. Mais il y a à côté de cela ce fameux malthusianisme économique dont on parlait dans les années 20 et que dénonçait déjà In petto Simian dans son travail sur les salaires des mineurs, qui évoquait cette réticence à la reconversion dans les houillères, mais aussi plus généralement. Et là, il y a des exemples durables, malheureusement, effectivement, d'interdiction de l'introduction de nouvelles industries. Je pense beaucoup plus tard, en 1930, à l'affaire de l'usine d'aviation de Saint-Étienne, qui a succombé, entre autres, à une rivalité politique.
D'accord. Et sur le plan de la vie politique, puisque ta thèse quand même s'intéresse aussi à ces aspects, est-ce que le schéma économique a un retentissement sur les traditions politiques, les appariements, les coalitions qui sont au pouvoir municipal avant la guerre de 14?
Est-ce
que tu vois un lien ou pas?
Je pense qu'il y a un lien dans un certain archaïsme politique qui caractérise Saint-Étienne, qui a été souvent jugé, voir la thèse d'Yves Lequin, il y fait allusion, sur la classe ouvrière dans la région, la grande région lyonnaise en somme, un archaïsme dû à un particularisme lié, je pense, à cette survivance d'un artisanat résistant à la concentration. Et il y avait même une sorte de collaboration entre une classe ouvrière partiellement, on a vu des exemples d'ouvriers éveillés, je dirais, dans le cas de la rubannerie, ce que j'évoquais sur certains chefs syndicaux qui pensaient même la reconversion et qui vivaient l'électrification comme une donnée de fait avec laquelle il fallait jouer. Mais à côté de cela, il y a dans différentes industries, je pense par exemple à la quincaillerie du côté de Firminy, qui est à l'origine des grèves très violente. On a même mis le feu à la mairie du Chambon-Feugerolles en 1910, de grèves violentes, où les animateurs au départ étaient des quasi-artisans qui, face à l'usine, essayaient de résister et essayaient ensuite d'entraîner les ouvriers des grandes usines. Mais il y a derrière tout un archaïsme, en quelque sorte, politico-social, qui a caractérisé Saint-Étienne de très longue durée. Parce qu'en 1936, encore l'extrême droite dans la Loire aux élections de Front Populaire a surpris, dont l'importance a surpris l'opinion. Mais on retrouve avant 14 cette conjuration entre une classe ouvrière partiellement rebelle au progrès, en quelque sorte, et un petit patronat également rebelle au progrès. Alors que je pense que, par exemple, le président de la Chambre de commerce de l'époque, de Montgolfier, qui était par ailleurs un grand industriel, à qui on doit entre autres la résurrection des aciéries de la marine, cette reconversion dont je parlais tout à l'heure, eh bien, essayait de concilier sur le plan de réforme qui affectait même la gestion des chambres de commerce, de concilier les intérêts des salariés et des patrons. Mais face à cela, il y avait une sorte de résistance à toute innovation, en quelque sorte.
D'accord. Une petite pause. Bien, donc je rappelle que nous sommes dans l'émission du Grémos, première émission qui revient sur les quatrièmes rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne, le thème « Travail et monde ouvrier au temps de la Grande Guerre ». Et nous avons consacré cette réunion d'aujourd'hui, cette émission d'aujourd'hui, à la première demi-journée ouvrière, ouvrier et entreprise dans la Grande Guerre. Donc on s'approche ici de la problématique que pose effectivement le conflit, en écoutant d'abord un extrait de la troisième intervention, celle de Luc Rojas, qui s'intitule « Entre composition temporaire et intensification de la production, le travail dans les houillères stéphanoises entre 1914 et 1918 ».
En effet, au moment de cette mobilisation, personne ne prévoit la mobilisation industrielle. Et c'est seulement en septembre 1914, avec la conférence de Bordeaux, que le ministre de la Guerre, Millerand, épaulé par les grands industriels du pays, dessine un système complexe qui va orienter l'industrie en direction de la militarisation, autrement dit de la production militaire. Il va falloir néanmoins fournir à ces entreprises la main-d'œuvre dont elles ont été privées dès les premiers jours de la mobilisation, puisque près de 3,5 millions d'ouvriers ont été, dès les premiers jours, appelés sous les drapeaux. Les industriels vont donc réclamer le retour de cette main-d'œuvre. Et durant l'année 1915, près de 500 000 ouvriers vont retourner au sein des usines et des mines. Néanmoins, Albert Thomas, qui est en charge à ce moment-là de ce problème, à l'été 1915, va se montrer un peu réticent à renvoyer systématiquement les soldats dans les usines. Pour cela, il va préconiser l'emploi d'une manœuvre auxiliaire. Les femmes, les étrangers, les coloniaux ou encore les prisonniers de guerre. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette préconisation, il va, par le biais de textes réglementaires, je pense ici notamment à la loi d'Albiès qui date d'août 1915, et qui permet une mobilisation des ouvriers au sein des différentes usines et différentes mines. Une instruction de septembre 1915 de ce texte réglementaire permet à tout homme justifiant de 6 mois de travail dans les mines d'être mobilisés au sein d'une exploitation. Ainsi, par ce biais réglementaire, les houillères stéphanoises vont pouvoir compenser quantitativement les ouvriers qui ont été mobilisés. Ils vont pouvoir refaire partir la production qui a énormément souffert de cette mobilisation, puisque cette production, pour l'année 1914, alors que le conflit ne débute que dans le dernier tiers de l'année, a chuté de près de 12%.
Alors, Jean Lorsin, cet extrait de l'intervention de Luc Rojas me semble tout à fait intéressant, parce que si on pense à ce que disait tout à l'heure Michel Zancarini, on a bien un patronat stéphanois qui est intéressé par la question du management et de la taylorisation de la production. Étienne Mimard fait un voyage assez précurseur finalement aux États-Unis au début du XXe siècle. Et Luc Rojas nous explique qu'il y a eu aussi toute une réflexion dans les houillères, et pas seulement d'ailleurs à Saint-Étienne, sur la taylorisation. Or, il dit dans l'introduction de son intervention, si cela semble séduisant dans le contexte de la Première Guerre mondiale, il apparaît illusoire pour les houillères stéphanoises de mettre en œuvre cette modernisation. C'est-à-dire que son intervention nous montre à la fois les tentations, je ne sais pas si je peux employer cette expression, et les limites de la modernisation. Et d'ailleurs, son intervention est tout à fait exemplaire parce qu'il va nous montrer comment les houillères ont tourné plutôt que vers la rationalisation, vers une surexploitation dans des conditions souvent indignes des veines de charbon. Alors, il nous pose aussi, bien sûr, la question qui est au centre de la mobilisation et de la situation du bassin stéphanois pendant cette guerre, qui se retrouve être l'arsenal de la France. Or, cet arsenal est désorganisé par la mobilisation, puisque les ouvriers sont envoyés en masse au front. La production de charbon, dit-il à la fin de ce passage que nous avons diffusé, a fortement reculé, plus de 12%, à cause de ce problème de la main-d'œuvre. Donc on va te demander maintenant de nous dire un peu ce qu'a été la réalité de la production et de la situation sociale pendant la Première Guerre mondiale dans le bassin stéphanois.
Oui, l'exemple des houillères montre l'équivoque qui entoure le mot taylorisation. Mmh. Il est évident qu'entre un charbonnage et manœuvrance, il y a un écart formidable d'un point de vue technologique qui saute aux yeux et qui montre qu'il faut se méfier de l'emploi abusif de ce mot, oui, parce qu'il couvre trop large, en quelque sorte. On reste, disons, la notion de rationalisation appliquée aux mines, au système Bedeau, enfin, etc. Donc là, il y a certaines réticences dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'elle est due à des nécessités techniques, l'impossibilité technique d'appliquer cette rationalisation, ou à, c'est la dénonciation de Simian que je signalais, ou à un archaïsme de la pensée des houillères habituées, disons, à une situation de monopole ancienne, totalement dépassée, mais qui continue comme par le passé. Voilà. Là, la question reste ouverte parce que je pense que je vais soulever des cris chez les ingénieurs qui forment, par exemple, le comité des... comment dire... l'association du musée de la mine de Saint-Étienne. On ne peut pas dire n'importe quoi, j'ai déjà été sur le cheval l'objet de polémiques sur le traitement des chevaux de mine, je marche sur des œufs, je pense qu'il y a un problème qui a été posé à l'époque et que le discours de Perimov évoque, une sorte de double langage, qui a raison. Là, je pense que je reste en expectative et je n'ose pas encore trop trancher. Je pense qu'il faudrait des études approfondies, en particulier distinguer très nettement entre les mines de Saint-Étienne et celles de Montrembert. Mmh. Il y a deux politiques et il y a une tradition d'ingénierie du côté de Montrembert qui n'a pas son équivalent chez les houillères de Saint-Étienne. Là encore, le traitement des chevaux, d'ailleurs, le différencier ces deux types de mines, qui montrent que le sort des hommes et le sort des animaux sont quelquefois comparables. Mais ça, c'est une autre histoire qui n'a pas été racontée cette fois. Donc il y a, je pense, une difficulté d'application du mot taylorisation et d'application en particulier à la mine. Il est certain qu'il y a des raisons physiques qui rendent difficile, mais qui a tout de même une politique de modernisation qui est possible et qui n'est pas toujours acceptée. Voilà. Quant à la mobilisation des hommes, c'est une donnée générale qui affecte toute la grande industrie, aussi bien la mine que la métallurgie, à laquelle Albert Thomas a répondu de différentes manières. Mais il ne faut pas tout mettre sous le nom d'Albert Thomas. Le choix du recrutement d'une main-d'œuvre étrangère, la loi d'Albier, etc., dépasse la personne d'Albert Thomas, qui a quelquefois été attaqué d'ailleurs, sur le point, on l'a accusé au contraire d'embusquer, et non pas au contraire de débusquer des amis politiques grâce à la mobilisation des usines de guerre. Donc nuançons là aussi.
On va essayer de mettre un petit peu tout ça en ordre, si tu le veux bien. D'abord, effectivement, rappeler que la mobilisation, elle touche quand même particulièrement la région stéphanoise, puisque le nord est occupé et l'est est en grande partie occupé. Donc du coup, le grand bassin industriel français, mis à part évidemment la région parisienne, c'est quand même le bassin stéphanois. Donc il y a une responsabilité très lourde qui pèse sur la région. Alors, comment s'organise, je ne sais pas si tu veux commencer tout de suite par parler d'Albert Thomas, mais je pense qu'il faudrait qu'on y revienne. Comment s'organise cette question, cette gestion de la main-d'œuvre? Donc il y a quand même un droit de regard très important de la part de l'état-major et de l'armée.
Oui. Oui. Il y a une surveillance des mobilisés, c'est-à-dire de cette fraction des ouvriers rappelés du front. Voilà. Parce que c'était des spécialistes et qui étaient censés obéir à une discipline militaire. On les distinguait même physiquement en quelque sorte. Et ils n'avaient donc pas les droits dont pouvaient jouir théoriquement les autres ouvriers.
Et Michel Zancarini rappelle qu'ils sont obligés de porter le brassard.
Oui, pour être repérés et soumis à la gestion de l'officier qui supervise leur utilisation.
On peut noter tout de suite d'ailleurs que, parce que ça nous intéresse pour la suite, qu'ils n'ont notamment pas le droit de faire grève.
Oui.
Et pas le droit d'expression politique.
Oui. Donc, de toute façon, de façon plus générale, il n'y a pas de grève au début. D'une part, pour des raisons, cette intense mobilisation qui envoie au front les ouvriers, même les plus qualifiés, qui évidemment détruit l'organisation syndicale par définition. Alors le retour des fameux embusqués, comme on a dit quelquefois méchamment, alors qu'en fait ce sont des travailleurs des usines de guerre tout simplement, leur retour et d'autre part le repli massif sur la région de Saint-Étienne d'ouvriers de la région parisienne, etc., va donner un nouvel élan au mouvement syndical, en particulier sous l'influence d'anarcho-syndicalistes venus de la région parisienne, qui vont influencer en quelque sorte les cadres syndicaux. Et à l'abri du retour du front, c'est même les mobilisés vont être concernés, disons englobés, avec la menace qui pèse sur eux du renvoi au front immédiat, ce qui sera l'affaire d'Andrieux en 1917, vont être mobilisés et sont même souvent à la tête, l'exemple d'Andrieux le prouve, à la tête du mouvement, en quelque sorte. Donc il y a une tension que Albert Thomas avait tenté de conjurer en instituant l'arbitrage obligatoire en matière de discussion salariale. L'intervention de l'État dans des commissions où ouvriers syndiqués, la CGT, et qui a une attitude réformiste d'ailleurs aux côtés d'Albert Thomas, la CGT, et d'en face le patronat. Donc il y a eu une tentative de toute façon de conjuration des tensions sociales, mais en 1917, pour toutes sortes de raisons économiques, politiques, cela éclate.
Alors Albert Thomas, il est ministre avant 1917, il entre dans le gouvernement à quelle époque exactement?
1915.
1915.
1915, d'abord comme secrétaire d'État, puis progressivement, il arrive en 1916 au ministère de l'Armement.
Donc il a une relation particulière avec la région, puisque, bon, ne serait-ce que de façon anecdotique, il y a une place Albert-Thomas à Saint-Étienne, il y a un lycée Albert-Thomas à Rouen. Donc il a apporté quelque chose à la région pendant la guerre.
Le lycée Albert-Thomas de Rouen, qui est l'un des rares établissements scolaires portant son nom, il n'en a eu que 4 en France. Mmh. Alors qu'il y a plus de 25 voies et places qui portent son nom, ce qui prouve très bien les réticences que sa politique ont éveillées dans différents milieux, à droite comme à gauche. Il était l'objet d'un tiers-con.
Qu'il était ni de droite ni de gauche?
Oui, il était attaqué des deux côtés. Et Albert Thomas, donc social-démocrate, si on voulait le résumer, à l'allemande, précisait-il. Mm. C'était son exemple.
Exact.
Encore un admirateur de l'Allemagne sociale. Albert Thomas, à Rouen, a essayé de fonder une manufacture d'État pour ne pas faire appel à la seule industrie privée pour la fabrication de guerre. Mais il y a eu là un petit scandale financier qui a un peu ralenti les opérations. Cela dit, cette manufacture a bien eu lieu et explique le sort fait à Albert Thomas, très spécifiquement à Rouen, sur la base d'un lycée plutôt professionnel. Mais ailleurs, Albert Thomas n'a bénéficié que de 3 collèges ou écoles primaires. Pour des raisons, encore une fois, que je subodore être politique.
Donc son action au ministère de la guerre, c'est quand même un effort, le tout premier effort d'intervention de l'État dans la production industrielle. On peut dire ça comme ça.
Oui, d'un État qui a mobilisé l'industrie privée et lui a tendu une main généreuse.
Oui, c'est vrai.
Assez coulant même sur le domaine des paiements. On évoquait, mon père était ingénieur jadis chez Chavannes-Brun Frères et a connu la mobilisation de 1939-40. Mmh. Et il évoquait, il était jeune lycéen en 1914-18, il évoquait les amas d'obus que l'on trouvait devant les usines Chavannes ou autres à Saint-Chamond et qui encombraient les trottoirs, et en 1939 le vide. C'est qu'entre les deux, Albert Thomas avait choisi la politique de fermer les yeux sur les super-profits du patronat. Oui. On le lui a reproché à gauche, bien entendu. Tandis qu'en 1939, le Front populaire était derrière, on a été très rigoureux. Et le patronat a été moins productif. Donc Albert Thomas avait le sens des réalités. D'accord. Tout en essayant de concilier cela avec le sort de la classe ouvrière.
Oui, donc en fait, il introduit quand même des nouveautés sur la question des relations salariées.
Oui, en particulier cet arbitrage obligatoire et cette co-représentation des patrons et des ouvriers dans des comités pour discuter des salaires. Cela dit, il était l'héritier de la politique de Mitterrand.
Oui, c'était une revendication formulée par Jaurès dans les années 1890.
Oui, et que Mitterrand a tenté d'appliquer. Je pense également au rôle des délégués mineurs,
voilà,
qui a été très important, et qui dans les mines a joué un rôle important et était presque un exemple. Je ne dirais pas, c'est probablement l'exemple qu'Albert Thomas a voulu suivre.
Alors, la main-d'œuvre, c'est aussi, pendant la guerre de 14 et les reportages et documentaires qui se sont un petit peu multipliés pour l'occasion du centenaire, ils reviennent un petit peu à foison, c'est l'idée de l'arrivée des femmes. Alors, si je reprends l'intervention de Michèle Zancarini, elle remet bien les choses en point. Elle dit « C'est une première idée à récuser. Les femmes ne sont pas entrées pour la première fois dans les usines avec la guerre. Elles travaillaient déjà dans la métallurgie avant la guerre de 14-18. » Donc elle cite, elle donne des chiffres, quand même, il y a une nette augmentation si on prend le cas de Mimar, puisque en décembre 1916, elles étaient 1782 sur un total de 3182, ce qui représente 56%. En 1914, elle n'était que 17%. Mais c'est vrai qu'elle a raison de souligner que le travail des femmes, ce n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, il y a une législation qui est mise en place dans le 19e siècle, justement, pour interdire le travail des femmes de nuit. C'est bien qu'il y avait des femmes qui travaillaient, il faut le rappeler. Alors, travail des femmes, travail des colonisés, travail des étrangers aussi. Est-ce que ça introduit quelque chose de nouveau dans l'industrie, et particulièrement à Saint-Étienne, dans ces années-là?
Oui, à Saint-Étienne, il y a une forte, enfin dans le bassin stéphanois, une forte présence, effectivement, des fameux Kabyles, par exemple, où la première fois où une main-d'œuvre musulmane fait son apparition, même s'il y a un retour en arrière à la fin de la guerre, mais il restera quand même les Marocains, de tout ce vieux Saint-Étienne, là, qu'on évoque à Beaubrun, etc. Et c'est la suite, logique. Il y a les fameux Chinois. Les Chinois, qui étaient effectivement d'authentiques Chinois, représentés également dans les mines. Il y a les Polonais, qui étaient déjà, dès avant 14, dans les mines du Nord, étaient l'objet déjà d'un appel, mais qui arriveront aussi, qui... Là, je pense que c'est plutôt l'héritage de ces entrées avant-guerre, puisque la guerre elle-même empêchait qu'il y ait une migration polonaise qui reprendra alors très fort en 1920 de façon organisée.
Luc Rojas évoque les Grecs aussi. Importante.
Oui, alors il y a aussi les Grecs, c'est donc des éléments méditerranéens qui apparaissent très bien dans les statistiques d'usine, tiennent une place également importante.
Et il dit aussi, c'est assez intéressant quand même, qu'il y a une compétition entre les entreprises. Par exemple, les Grecs sont venus à l'appel des houillères, mais que les entreprises de métallurgie travaillent à les déboucher. Et il donne d'ailleurs toute une partie de gens qui sont partis aux usines Beau Soleil, qui sont partis aux aciéries de Saint-Étienne, chez Mermier. Des Grecs qui étaient venus embauchés par les houillères, enfin à la demande des houillères, et qui en finalement partent. Donc il y a aussi entre patrons une compétition.
Oui, parce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre. Et que Holzer, par exemple, est très inquiet du manque de main-d'œuvre, parce qu'il était très demandé avec les aciers spéciaux et les industries. Enfin, on voit tout de suite la place que dans la fabrication de l'obus, par exemple, l'acier spécial a pu tenir. Donc il était aux premières loges, en quelque sorte, et il y avait sans arrêt l'angoisse de manquer de main-d'œuvre pour faire face à la demande, c'est certain.
Alors tout ça, ça fait aussi quand même, puisque nous parlerons dans les prochaines émissions des conditions du syndicalisme, des revendications sociales, ça fait aussi une certaine tension sur des conditions de vie, donc notamment les conditions de logement, qui sont souvent dégradées, voire dégradantes. C'est les conditions de ravitaillement aussi. Et puis, avec la hausse des prix, bon, ça c'est un petit peu valable aussi en dehors de Saint-Étienne, mais la question du pouvoir d'achat. Mais logement, la question du logement est extrêmement aiguë à Saint-Étienne, puisqu'on est dans une ville qui, avant la guerre, comptait 170 000 habitants et qui, tout d'un coup, va se retrouver avec 215, 220 000 habitants sans qu'il y ait eu la moindre construction de logement.
Oui, ça c'est le problème. On a évoqué après-guerre le taudis stéphanois, voilà. C'était un peu un héritage de cette situation, une surpopulation.
C'est ce moment
que logement inadapté, oui. Donc il y a la lutte. On a essayé d'y remédier par les cités ouvrières, c'est un mouvement qui commence bien avant 14. Mais là, on en est au baraquement, pour loger toute cette main-d'œuvre coloniale, étrangère, etc., en particulier. Ça c'est... d'où des tensions formidables et qui se répercuteront certainement dans, qui sont à l'arrière-plan des tensions qui marquent les grèves de 1917-18. Il y a quand même un substrat social, et puis alors évidemment la hausse des prix, la flambée des prix
et l'insuffisance du ravitaillement
liée à l'insuffisance du ravitaillement. En 1917, il y a des moments tragiques pour la pomme de terre.
Alors pour anticiper un petit peu, puisqu'il faut bien qu'on conclue, là on arrive un peu à la fin de l'émission, pour anticiper sur la suite, on a déceler les premières manifestations de cette colère ouvrière qui va exploser en courant 17 et début 18. Est-ce qu'il y a déjà des prémices en 1915, 16
Mais il y a d'abord un héritage.
Oui, alors
il n'y a qu'à penser à la vallée de l'Ondaine rouge, avant 1914, où Benoît Frachon a fait ses débuts aux côtés de Pétrus Faure comme lanceur de bombes dans les parcs des patrons locaux. Donc, début pittoresque, il l'évoquait, je l'ai rencontré en 1971, il l'évoquait avec une certaine nostalgie, ce qui évidemment tranchait avec la discipline du Parti communiste à laquelle il a dû se soumettre par la suite. Mais il y avait donc une vallée rouge, à tel point qu'elle intéressait le musée social, qui a pris la vallée de l'Ondaine comme exemple d'application de l'étude des grèves et des mouvements grévistes. Donc il y avait, j'ai évoqué tout à l'heure ce rôle des artisans qui pouvaient influencer les ouvriers de la grande industrie, etc. Mais la grève, évidemment que la guerre a créé des conditions nouvelles dans un terreau déjà favorable. En
alors, quand même une question qui se pose, on va en dire deux mots dans l'instant, c'est comment ce mouvement antimilitariste, anarcho-syndicaliste, totalement inopérant au moment de la mobilisation, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient la guerre à la guerre.
Oui.
C'est étonnant quand même.
Le tournant d'Albert Thomas. Albert Thomas était partisan de la grève générale contre la guerre.
Oui, oui.
Et Jaurès aussi.
Oui. Oui, enfin, Jaurès, il n'a pas eu le temps.
Il n'y avait que Guesde qui était contre. Oui. Alors que d'habitude, Guesde était plus à gauche, mais il avait une certaine rationalité. Et. Je ne sais, le tournant s'est fait devant l'attitude de l'Allemagne, oui. Je pense. Et l'invasion de la Belgique a achevé de convaincre. Mais il est certain que même avant, les conditions allemandes ont pesé très lourd dans la réflexion socialiste, et en particulier celle d'Albert Thomas. Albert Thomas qui, du coup, s'est rallié à l'Union sacrée, on pourrait dire, à 100%, sans réticence, en quelque sorte.
Oui, alors c'était effectivement une question qui sous-tendait les journées, les rencontres d'histoire ouvrière de Saint-Étienne de ce mois de janvier, à travers à la fois la question du travail et de la question de la guerre. Comment ce monde syndical, qui était apparemment totalement antimilitariste, va se convertir à l'idée de la guerre. Donc on y reviendra dans nos prochaines émissions. Je voudrais donc d'abord rappeler que les rencontres d'histoire ouvrière ont eu lieu en janvier et qu'on prévoit une publication dont tu assureras une vaste introduction, Jean, au début du mois de janvier, au début du mois de février 1918, sur à partir des actes, mais quelque chose qui sera beaucoup plus étoffé avec des illustrations notamment. Voilà, ben merci d'être venu, de nous avoir fait part de toute ta connaissance du bassin stéphanois dans cette période, et merci à tous les auditeurs d'avoir été à l'écoute.